Chapitre 41. Le bunker de Maître Bardon. Samedi, 19 août 2000, 9h28, camp de la presqu'île sauvage, île de Mornecey. Lorsque je me réveillais, presque tout le monde était déjà debout, y compris Maddy et Armand. Je paniquais. Immédiatement, je regardais ma montre. 9h28. Nom de Dieu. J'enfilai avec précipitation quelques habitacées en vrac dans mon sac. Quelques jours auparavant, j'avais programmé de faire du rangement avant l'arrivée de mon oncle et de ma tante. Aujourd'hui, je m'en fichais. Un pantacourt et un t-shirt d'une propreté douteuse firent l'affaire. Je sautai dans mes baskets et je sortis du marabout en clignant des yeux. Le soleil m'agressa. Je n'étais pas habitué à me lever si tard. Les ados du camp s'occupaient sans prêter attention à moi. J'avançais le plus tranquillement possible, sans plan dans ma tête. Siffloter, ne pas siffloter. Arrivé devant la vaste charreterie qui servait de préau, je croisais le regard appuyé de Yo-Yo. Un regard qui signifiait « Toi, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je t'ai à l'œil. » Il avait eu des ordres, ceux du père Duval hier soir. Ou bien des ordres venant d'ailleurs. Il me paraissait pourtant bien inoffensif, Yo-Yo. Justement, se méfier de tout le monde, même de Yo-Yo. En tout cas, il ne me lâchait pas des yeux. Malgré moi, je consultais ma montre. 9h37. Il y avait urgence. Mon père m'attendait. Quel enfer. Comment sortir de ce camp? Si je faisais un pas vers la barrière, à moins de 50 mètres pourtant, Yo-Yo me sauterait dessus. Me faufiler derrière les arbres pouvait fonctionner à la nuit tombante, quand la cour était déserte. Mais là, en plein jour, sous le regard du Cerbère, impossible. Armand était en train de bouquiner sur un plaid, torse nu, au soleil, tout rouge. Il me semblait surtout mater du coin de l'œil les deux plus vieilles ados du camp qui s'escrimaient à nouer leurs cheveux en tresse africaine. Maddy sortit à ce moment-là des sanitaires avec deux copines. Elle tenait dans sa main un lecteur de CD extra plat et je remarquais des écouteurs enfoncés dans ses oreilles. Aucune idée ne me venait. Le temps passait pourtant. 9h42. Yo-Yo, d'habitude en état de léthargie prononcée le matin, ressemblait à un chien de garde à l'affût. Je distinguais même un petit sourire lorsqu'il me regardait. Oui, il avait reçu des ordres. De qui? Enfin, Armand délaissa les apprentis coiffeuses et tourna les yeux vers moi. Je tentai de mettre toute la détresse du monde dans mon regard, en fixant successivement Yo-Yo, puis le cadran de ma montre. Armand se leva presque immédiatement. Sa capacité à improviser me stupéfiait. Il se planta quelques mètres plus loin, devant Maddy. « Ça te fait pas chier d'écouter ta musique de merde avec mon baladeur ?» J'aurais juré qu'Armand n'avait jamais possédé de lecteur CD de sa vie. Maddy resta incrédule quelques instants avant de comprendre. Elle capta le manège d'Armand, sans même se retourner vers moi. « Dégage, microbe !» répliqua-t-elle. Armand ne bougea pas. « J'ai pas l'habitude de répéter, Mad Girl. Active, mon baladeur !»« C'est con, tu vois, j'ai dû acheter le même. Magne-toi de retirer mes écouteurs de tes oreilles pourries. J'ai pas envie d'attraper des maladies par ces trous-là. » Évidemment, Armand ne pouvait pas éviter d'en rajouter. « Qu'il se dépêche, » pensais-je. « C'est bon, vous en avez fait assez, vous êtes crédible. » Du coin de l'œil, j'observais Yo-Yo aux aguets. Une lassitude matinale plus coutumière semblait l'atteindre en écoutant le début de la dispute entre l'adolescente et Armand. Enfin, Maddy empoigna Armand. « T'as dit quoi, là ?» Maddy mima, du moins je l'espérais, un violent coup de genou dans les parties génitales d'Armand, qui grimaça avec une maîtrise confondante, puis se jeta sur son agresseuse à grand renfort de cris. Ils furent bientôt entourés de la moitié du camp. Yo-Yo finit par se lever. « Bordel, vous faites chier !» Il cassa avec difficulté le cercle des ados et se pencha sur les pseudo-protagonistes. C'était le moment. En quelques instants, je franchis la barrière du camp. Libre. Bien joué. Je devais marcher sur un chemin de ferme pendant 100 mètres et au bout, dans le tournant, je savais que mon père m'attendait. Avancez vite, le plus vite possible. Avec le soleil de face, je ne voyais pas grand-chose. Je mis ma main en visière. J'avais oublié ma casquette et mes lunettes de soleil. Devant moi, je distinguais une ombre, une silhouette distincte, juste en face, menaçante. Je clignais des yeux et je baissais ma main. C'était Stéphanie. Elle s'arrêta, toujours ce curieux sourire au coin des lèvres. Ils me surveillaient. Ils étaient tous complices. Ils étaient ligués pour m'empêcher de rejoindre mon père. Je tentais malgré tout ma chance. il faut que tu me laisses passer, Stéphanie. Je peux pas t'expliquer, mais il le faut, c'est vital pour moi. » Elle ne répondit pas. Elle écarta légèrement les bras. Elle me fit l'effet d'un gardien de but avant un pénalty. Elle continuait de sourire et, du bout des doigts, me fit un signe, provoquant, qui signifiait « Viens, viens, essaye. » « Stéphanie !» criai-je presque. « T'es pas avec eux ! Dis-moi que t'es pas avec eux, il faut que tu me laisses partir !» Elle se contenta de répondre calmement. « Il faut que tu retournes au camp, Colin. » Je baissai les yeux et évaluai rapidement la situation. Stéphanie était plus sportive que moi, plus forte, plus rapide. Mais la grande question était, était-elle plus déterminée ? Pensait-elle avoir en face d'elle un banal ado en fugue, ou bien un fugitif prêt à risquer sa vie ? Elle s'avança un peu. « Allez, c'est fini tes conneries. Colin, tu rentres. Ce soir, tu verras avec ton oncle et ta tante. Tu feras ce que tu veux. Mais d'ici là, j'ai pas envie de te retrouver enterré dans le sable comme l'autre truand hier. » J'explosai. « M'enterrer dans le sable ? C'est des menaces, ça, Stéphanie ?» Stéphanie s'avança encore, tout en parlant. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de moi. Elle s'arrêta, surprise. « Des menaces, Colin ? Tu délires ?» Avec une vivacité de réaction qui m'étonna, je profitai de ce court moment d'hésitation pour me lancer vers Stéphanie et la pousser le plus violemment possible. J'eus juste le temps de la percevoir, déséquilibrée, chavirée devant un talus rempli d'orties hautes de presque un mètre. Sans réfléchir, sans me retourner, je courus. Je parcourus rapidement le chemin de terre devant le camp. À peine sorti de l'allée, j'aperçus à ma gauche la Ford Transit de mon père, garée dans le tournant un peu plus loin. Je montai avec précipitation à l'avant. Le sourire familier de mon père me rassura immédiatement. « Pas de soucis, Colin ?» Il démarra aussitôt. « Tu as l'air essoufflé. Des problèmes ?»« C'était compliqué de sortir du camp. »« Tu as des soupçons ?»« Je sais pas. Je soupçonne tout le monde. »« Ouais, je sais. Je connais ça. »« C'est pour ça que le dossier, celui que tu vas chercher chez le notaire, il faut pas que tu l'ouvres. Si tu l'ouvres, toute ta vie, tu soupçonneras tout le monde. Comme moi. » Je ne trouvais rien à répondre. Nous traversâmes l'île à moyenne allure, par la route de l'abbaye. En doublant la croix Saint-Antoine, mon père ralentit un peu. « L'abbaye, t'as eu le temps de la visiter ?» J'acquiesçai. « Impressionnant, non ?» Malgré moi, je fis également oui de la tête. « Et encore ?» poursuivit mon père. « Maintenant, c'est presque à l'abandon. T'aurais vu à l'époque. » Il ralentit encore. « Tout ceci, Colin, c'est à toi. De l'abbaye jusqu'à la mer. Des landes, les dernières landes inhabitées qui donnent sur la Manche. » Les sanguinaires et le reste. Un cadeau sacrément embarrassant, non ? Je ne savais toujours pas trop quoi répondre. Du haut de mes 16 ans, je me sentais encore si jeune pour posséder quoi que ce soit. Toutes ces landes m'appartenaient. Ça ne représentait rien pour moi. Ce paysage de terre ocre et de granit m'était étranger. La camionnette passa près du 1012, route de l'abbaye. Je n'eus pas le courage de poser à mon père la question sur cette mystérieuse adresse. Pas plus que pour sa tombe profanée. Plus tard. Cette visite au notaire accaparait tout mon esprit. Cette première mission que me confiait mon père. Assis à l'avant de la Ford Transit, j'avais une impression de hauteur. Je dominais la lande. Je n'observais pas le même paysage que lorsque je marchais pour aller à la voile, aller-retour, tous les jours. C'était stupide, mais cela me donnait une sensation de puissance. Nous passâmes devant l'anse de rubis. La mer s'éloignait, loin, comme si elle aussi voulait quitter l'île, abandonnant au large des milliers de rochers enlisés dans une vase pourpre. Instinctivement, je pensais à l'agression d'hier soir. Fallait-il en reparler ? Qu'est-ce que mon père avait fait du corps de Valerino ? Plus tard aussi. Dans quelques instants, nous serions devant le notaire. Ne pas se disperser. Penser à la mission. Mon père accéléra lorsque l'on passa devant les pavillons récents.
« Quelle horreur, ces trucs, tu trouves pas ? » ?»«
Heureusement qu'autour de l'abbaye... » J'avais une boule dans la gorge. Une boule terrible.
« T'en fais pas, tout ira bien. » Personne d'autre que nous n'est au courant de la date.
Je repensais à mes confidences de la nuit, à tout ce que j'avais révélé à Maddy et Armand. Mon père continuait.
T'as juste à récupérer le dossier. Serge Bardon est un peu impressionnant, mais il n'est pas méchant.
Quelques instants plus tard, il se garait à cheval sur un trottoir le long d'une ruelle de Saint-Argan, la rue des Pivoines. Tout semblait tranquille dans la ruelle pavée, fleurie et ensoleillée.
C'est ici!
Fit-il en me désignant une petite maison de ville, dont la plaque dorée brillait au soleil.
La seule maison sans volet rouge, maître Serge Bardon, un vieil ami de la famille.
Il se lança dans un rire incertain,
sans doute destiné à me rassurer, mais qui n'eut pas l'effet escompté. Je voyais bien que mon père se tenait aux aguets. Un coup d'œil dans le rétro, un autre vers les fenêtres au-dessus de nos têtes. Un regard de félin. Moi, je ne voyais qu'une rue déserte en ce matin, sinistrement déserte. Après avoir passé encore quelques instants à scruter les alentours, il me prit la main. « Tu peux y aller, je pense. Souviens-toi, il va insister pour que tu ouvres ce dossier chez lui. Je le sais, c'est moi qui lui ai donné cet ordre formel il y a 10 ans. Souviens-toi, tu ne dois pas lui obéir. Mes ordres sont différents aujourd'hui. Il ne faut surtout pas l'ouvrir. Tu le prends et tu sors, simplement. Tu as compris pourquoi ? Tu as des pièces d'identité ? J'ai ma carte ? Ça ira. » Je le regardais une dernière fois. « Pourquoi tu m'accompagnes pas ? Ce serait plus simple ?» Mon père scrutait toujours avec inquiétude les environs. Il avait l'air pressé. « Officiellement, pour Serge Bardon, je suis mort, noyé. Ma règle d'or est de limiter au maximum les témoins de ma résurrection. Mais Bardon est quelqu'un de confiance ? Un professionnel intègre, je t'ai dit. Mais c'est également quelqu'un qui n'aime pas mentir. Avec la cavale de Valerino, ils sont en train de ressortir l'affaire de l'accident des sanguinaires. T'as lu la une de Lilien hier ? Tout refait surface. » La police va enquêter, y compris chez Maître Bardon. Je crois pas trop aux coïncidences, Colin. Je crois qu'il vaut mieux que je reste mort encore quelque temps, surtout en ce moment. Il regarda une nouvelle fois dans le rétroviseur. Allez, Colin, fonce. On bénéficie de l'effet de surprise. Il faut pas le gâcher. Avec précaution, je sortis de la camionnette. Mon père s'est égaré près du mur. Je me faufilais pour avancer. À mon tour, je lançai des regards inquiets à la ronde, puis je traversai la rue. Je lus sur la plaque dorée « Maître Serge Bardon, notaire ». Je me retrouvais face à l'imposante porte en bois. Je cognais. Mon cœur aussi en résonance. De la lumière à l'intérieur, des pas très lents. Puis la porte s'ouvrit. Je fus à la fois surpris et impressionné. L'homme en face de moi occupait la quasi-totalité du couloir. Il n'était pas beaucoup plus grand que moi, mais devait peser au moins 3 fois plus. Son ventre débordait de sa chemise blanche, et sa cravate semblait aussi minuscule que ridicule. Il m'accueillit dans une froide indifférence.
« Oui ? » ?»«
Bonjour, je suis Colin Rémy, le fils de Jean et Anne Rémy. » Il prit son temps pour changer d'attitude, pour passer de l'homme là que rien ne surprend à un semblant d'enthousiasme.
« Le jeune Colin Rémy ? Bien entendu, c'est la visite de la journée. Mais je ne t'attendais pas aussi matinal. Sacrée rencontre, n'est-ce pas ? Dire que j'ai noté ce rendez-vous dans mon agenda il y a plus de 10 ans. Entre, suis-moi. »
Il se déplaçait assez difficilement. J'entrai. Il actionna derrière moi une sorte de télécommande qu'il pointa vers la porte. Un bruit compliqué de serrure cliqueta.
« Bienvenue dans le bunker de l'île de Mornecey, » plaisanta le notaire.
Je n'étais guère rassuré. Je me trouvais face à un grand couloir recouvert de dalles noires et blanches hexagonales. Bardon tourna à droite. Je le suivis encore. J'entrais dans une pièce sans aucune fenêtre. J'avais lu ce roman de Flaubert, Madame Bovary, pour le lycée. Le bureau du notaire me rappela immédiatement cette ambiance. Un parquet ciré au sol, une moquette épaisse, mauve, au mur. Et surtout, un bric-à-brac incroyable. De grandes étagères avec des livres anciens. Un globe terrestre sur pied. Des maquettes de voiliers sur des tables basses. Des fleurs séchées dans de hautes jarres en terre cuite. À se demander comment ce notaire pouvait se déplacer dans cette étude sans rien renverser. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bardon souffla un peu, comme épuisé par les quelques mètres qu'il venait de parcourir. Il m'invita à m'asseoir, juste en face de son bureau. C'était un des seuls éléments modernes de cette pièce, un fauteuil à roulettes pivotant. Il s'installa à son tour derrière le bureau, dans un profond fauteuil en velours, aux larges accoudoirs. Je ne voyais plus que le haut de son torse. Une fois assis, c'est la vivacité de ce notaire qui m'impressionna. Ses mains et ses yeux surtout, qui s'agitaient en mouvements rapides et contrôlés, sans cesse. Il resta un certain temps à m'examiner.
« Colin, je vais être obligé de te demander une carte d'identité. C'est un peu ridicule, tu ressembles tellement à ton père. Mais bon, il me la faut. »
Je ne relevais pas l'allusion. Je lui tendis ma carte.
« Alors ainsi, tu as reçu ma convocation ?»
Je me contentais d'incliner favorablement la tête pour ne pas avoir à entrer dans les détails.
« Et tu as pu venir aussi vite ?»
Aucune raison de ne pas lui dire la vérité. « Je suis en camp de vacances sur l'île, depuis presque 15 jours. Mon oncle et ma tante arrivent ce soir. »«
Bien, parfait, parfait !»
Ses grosses mains ouvrirent avec une agilité qui me surprit à nouveau le tiroir de droite de son bureau.
Il en sortit un imposant dossier, dans une chemise en carton beige, fermée d'un large ruban. Il posa le tout sur le bureau, à équidistance entre lui et moi. On sentait qu'il y avait quelque chose de solennel dans ses gestes. Logique. 10 ans qu'il la ruminait, sa mise en scène. Je commençais à deviner qu'il allait me faire mariner, laisser traîner les choses. Je pensais à mon père dehors. Au contraire, il fallait écourter ce rendez-vous, mais ne pas trop le brusquer non plus. Ne pas faire de gaffe, être digne de ma mission, la première. Le notaire tapotait toujours des 5 boudins qui lui servaient de doigt mon dossier beige, semblant réfléchir. Mon œil. J'étais certain que ses répliques étaient apprises par cœur depuis des années.
« C'était un chic type, ton père !»
me lança-t-il. Cela me surprit, agréablement. Je ne répondis pas.
« Tu dois pas te souvenir beaucoup de lui. T'étais gamin. Mais c'était vraiment un gars bien. Une sorte de Don Quichotte. Il s'est battu contre les moulins à vent. Il était comme ça, entier, sans concession. Faut pas lui en vouloir. »«
Je lui en veux pas ?» parvins-je à placer. Il regarda à nouveau le dossier.
« Tout est là, mon petit. Tout ce qu'il n'a jamais dit à personne. Tous les secrets de l'île. Ce pourquoi il a préféré disparaître, tout est là. »
Je commençais discrètement à regarder le bureau. Un sentiment d'emprisonnement me gagnait. Comment allais-je pouvoir sortir? Allais-je parvenir à le convaincre de me laisser partir sans lire le dossier?
« Tu peux pas t'en rendre compte, » continuait le notaire. « Mais il y a un sacré paquet de types sur cette île qui paieraient une fortune pour savoir ce qu'il y a dans ce dossier. Et pas forcément des types très recommandables. Des flics aussi paieraient cher, tu peux me croire. Et encore récemment. »
Des flics ? Récemment ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Néanmoins, méfiant, je ne posais aucune question. Le notaire poursuivit, la main toujours sur le dossier.
« Encore heureux que pas grand monde ne soit au courant de ce dossier. Encore heureux surtout que je sois un type prudent. Devine, en 10 ans, combien de fois mon étude a été cambriolée ?
Je sais pas. » Je la jouais timide et polie.
« 7 fois, t'entends ça ? 7 fois ! Bon, d'accord, j'ai d'autres dossiers chauds dans mes archives. » « Sûrement ne sait, tu peux me croire, ça manque pas. Mais quand même, 7 fois !»« Cela dit, s'ils reviennent, c'est qu'ils trouvent pas ce qu'ils cherchent, pas vrai ?»
Il se recula un peu sur sa chaise comme pour mieux appuyer son effet, fier de lui. Il attendait peut-être même un compliment.
« Ils n'ont pas trouvé ? » fis-je.
« Eh non. Cette étude n'en a pas l'air, mais c'est le coffre-fort de l'île du diable, le dernier refuge, le cercle inviolable que le mal ne franchit pas. »
Il explosa dans un grand rire gras.
« J'ai dans cette étude quelques caches dont je suis assez fier. Et aussi, bien sûr, je ne garde pas tout ici. Vois-tu, lorsque tu ne connais qu'un secret, tu es en sursis. Par contre, aussitôt que tu connais plusieurs secrets, alors tu deviens intouchable. C'est la clé de la longévité. »
Il repartit dans un éclat de rire gras qu'il ponctua d'une quinte de toux qui ne l'était pas moins. Tout juste s'il ne postillonna pas sur le précieux dossier. Ça n'avançait pas. Je tendis la main vers le dossier. Le notaire fut le plus prompt et le tira vers lui.
« 2 secondes, Colin. 2 secondes après 10 ans, c'est pas grand-chose, tu en conviendras. Je dois t'expliquer quelques règles d'abord. »
Je l'écoutais sagement. Je n'étais pas censé être au courant.
« Ma convocation a dû te surprendre, Colin. Surtout le fait que je te demande de venir seul. »
J'acquiesçais.
« Ce dossier, ton père me l'a confié il y a 10 ans. Il est venu un soir, secrètement. Il m'a dit qu'il réglait ses dernières affaires. Ta mère venait de mourir dans un accident de voiture. » On croyait déjà tous ton père noyé en mer depuis plusieurs jours. Moi aussi. Il m'a dit qu'il voulait disparaître, lui aussi. Pour de bon, cette fois-ci. J'ai pas insisté, mais j'ai bien compris de quelle façon il voulait en finir. On a retrouvé son corps sur la côte, quelques jours plus tard. J'ai pas été surpris. Excuse-moi de ces détails, Colin.
Je jubilais. Ce gros malin de notaire ne se doutait de rien. Il s'était laissé abuser, comme les autres. Le dossier, maintenant. Je tendis à nouveau la main.
Quelques secondes encore, Colin, s'il te plaît. Ton père a été bref ce soir-là. Bref et très précis. Il m'a dit que ce dossier contenait un titre de propriété, celui du domaine de l'abbaye, à ton nom. La gestion devait en revenir de plein droit lorsque tu aurais 16 ans. Il m'a dit aussi qu'il contenait des confessions, pour que tu comprennes, que tu saches pourquoi il avait disparu. Il a enfin sous-entendu qu'il contenait une sorte de carte. Je ne sais pas si ton oncle et ta tante t'ont parlé de cette légende.
Je compris qu'il parlait de la folie Mazarin, mais qu'il ne souhaitait pas l'évoquer ouvertement.
Non, je ne crois pas.
« Des vieilles histoires, Colin. Ton père connaissait beaucoup de choses sur cette île. Des secrets que tout le monde a cherchés pendant des années. Des siècles, même. Les gens imaginaient à propos de ton père des choses encore plus folles encore. Tout le monde pense qu'il a entraîné tous ses secrets au fond de la Manche dans sa mort. Alors tu sais, Colin, ta responsabilité va être énorme. C'est une charge épouvantablement lourde qui va te tomber sur les épaules. Je ne sais pas si ton père a bien fait de te léguer tout ceci.
s'il mesurait les conséquences. Je crois certaines personnes capables des pires actes pour que tu ne puisses pas exécuter les dernières volontés de ton père. Récupérer de tes propres mains ce dossier. Je le savais, mais ces personnes avaient échoué. Pour l'instant, du moins. Je frissonnais. C'est à partir de là, quand j'aurais récupéré ce fameux dossier, que moi et mon père serions réellement en danger. Quand il faudrait dévoiler au grand jour ce qu'il contenait, punir les vrais coupables, les assassins de ma mère, ceux qui m'avaient privé toutes ces années de la présence de mon père. Le notaire ôta enfin sa main du dossier beige et poursuivit.
« Mais ce n'est plus l'heure de philosopher. Et toi non plus, tu n'as plus le choix. Voilà, mon rôle s'arrête là. C'est à toi de jouer. »
Il poussa d'une main ferme le dossier vers moi. Je le regardais. Tout semblait ordonné, pas même jauni. Comme si le dossier avait été compilé la veille. Il avait raison, c'était à moi de jouer. De jouer serré. Je ramassai le dossier d'une main déterminée. « Merci. Merci pour tout. » J'esquissai un geste pour me lever tout aussi naturellement. Maître Bardon bondit. Littéralement, il bondit avec une stupéfiante souplesse, comme s'il avait anticipé mon attitude, comme s'il s'y attendait. Il se tint debout derrière son bureau et me domina de sa masse.
« Non, Colin, tu ne sors pas ainsi. C'est une bombe, ce dossier, tu ne t'en rends pas compte. Ton père avait parfaitement raison. Tu ouvres ce dossier dans cette pièce. Tu le lis, tant pis si ça dure plusieurs heures. Et ensuite, lorsque tu auras pris connaissance de ce qu'il contient, tu agiras en conséquence. En particulier, tu téléphoneras à qui tu veux. Pour ma part, je ne saurais trop te conseiller de téléphoner directement à la police. »
Le notaire se tenait maintenant près de moi, me coupant toute retraite. 120 kilos au moins. Il fallait que je trouve un plan. Vite.